Mesdames, Messieurs, vous écoutez Radio Prague, émission en langue française, les informations avec Magdalena Sigertova. Rencontre ce lundi à Londres entre le Premier ministre tchèque Jiří Paroubek et son homologue britannique Tony Blair. Ils se sont entretenus notamment de la ratification de la Constitution européenne et de la présence d'une centaine de soldats militaires tchèques en Irak. D'après le chef du cabinet tchèque, leur mission, qui devrait s'achever le 31 décembre prochain, pourrait être prolongée. À l'ambassade tchèque à Londres, Jiří Paroubek a décoré à l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale les anciens pilotes et légionnaires tchécoslovaques. La visite du chef du gouvernement en Grande-Bretagne se terminera mardi. Le président de la Chambre des députés, Lubomír Zaorálek, accompagné d'un groupe de députés, poursuit sa visite officielle en Corée du Nord. La tension autour du programme nucléaire nord-coréen est au cœur de ses entretiens avec les dirigeants du pays. L'Union européenne cofinancera par les fonds structurels la modernisation des routes tchèques. Sa subvention s'élèvera à 1 milliard de couronnes. 9 projets en profiteront, par exemple celui de la construction d'un pont sur la rivière Olche à Karvina, en Moravie du Nord, ou encore la réalisation de murs anti-bruit à Mnichovo Hradiště, en Bohême centrale. Le week-end dernier a été meurtrier sur les routes tchèques et moraves. 10 personnes sont mortes dans les accidents de la circulation. Plus de 50 historiens de République tchèque, de Slovaquie et d'Allemagne se réuniront mardi et mercredi à Prague. Leur conférence est intitulée « La Tchécoslovaquie en 1945, entre deux dictatures ». Parmi les thèmes abordés, il y aura par exemple le transfert des Allemands des Sudètes de la Tchécoslovaquie après la guerre, la position des Hongrois et des Roms, ainsi que l'économie, la science et l'éducation en Tchécoslovaquie après 1945. Des musiciens français, brésiliens, indiens, polonais, ukrainiens et autres se produiront tout au long de cette semaine à Prague, dans le cadre du Festival international de musique Rome Camoro. Sa 7e édition, ouverte lundi soir par un concert de jazz Rome, propose aussi des projections de films, une exposition de costumes traditionnels tziganes et de marionnettes. Camoro sera clôturé samedi prochain par un concert de gala dans la salle du palais Lucerna, place Venceslas. Côté météo, ce lundi, le ciel a été chargé avec des averses sur l'ensemble du territoire. Pour la nuit de lundi à mardi, la météo prévoit des pluies abondantes en Bohême de l'Est et en Moravie. Les températures se situent autour de 20 degrés. À partir de mardi, il y aura plus d'embellie. Il fera de 17 à 21 degrés. Dans la seconde moitié de la semaine, les températures devraient grimper jusqu'à 30 degrés. C'était les informations de Radio Prague. Notre programme se poursuit.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Les anciens dissidents tchèques critiquent l'attitude du président Václav Klaus vis-à-vis des organisations non gouvernementales. Une conférence sur l'avenir démographique de l'Europe a eu lieu à Prague. Les Parisiens peuvent voir ces jours-ci une importante exposition de l'affiche tchèque des années 60. Le festival de Cannes vu par la presse tchèque. Tels sont les thèmes que nous avons préparés pour cette émission. Merci de rester avec nous. Lors du dernier sommet du Conseil de l'Europe, la semaine dernière à Varsovie, le président tchèque Václav Klaus s'est exprimé d'une manière peu flatteuse sur les organisations non gouvernementales. La réaction des intéressés ne s'est pas fait attendre. Alain Slivinski.
Les premiers à réagir ont été les membres des organisations dissidentes de la période du régime totalitaire, celles qui étaient membres de la Charte 77, du Comité pour les personnes injustement poursuivies et autres. Pour eux, que ce soit Jan Rummel, qui a été ministre de l'Intérieur, l'évêque Václav Mali, le rabbin Radkarol Sidon ou Peter Hull, un journaliste des plus actifs au temps de la dissidence anticommuniste, mais aussi après la victoire des forces démocratiques en Tchéquie, le rôle des organisations non gouvernementales reste des plus importants et n'est pas apprécié à son juste niveau, aussi bien du côté des autorités que de la population tchèque en général. Pourquoi les principales personnalités des organisations non gouvernementales tchèques ont-elles envoyé une lettre ouverte au président de la République après ses déclarations à Varsovie? Des déclarations qui jugeraient comme néfastes les activités des organisations non gouvernementales. Une explication de Peter Hull, l'un des signataires de cette lettre.
À mon avis, parce que c'est scandaleux sur deux plans assez différents. Le premier plan, c'est le plan constitutionnel. Nous, dans la République tchèque, nous n'avons pas le système français, c'est-à-dire le système présidentiel où le président de la République est en même temps le président du gouvernement. Et nous avons un autre président du gouvernement, il s'appelle pas le chancelier, mais il est pratiquement chancelier. Notre constitution, c'est celle allemande et non pas celle française. Alors, il n'a pas de pouvoir formuler la politique du gouvernement. Il peut l'influencer, mais pas beaucoup. Et il n'a pas le droit de s'exprimer sur les grands traits ou sur les grandes perspectives de notre vie. Et comme les Tchèques ne savent pas, les Tchèques pensent, la population pense que c'est un système français et que le président de la République est en plus, encore davantage, le chef de l'État et le chef de nous tous, et pratiquement le roi de Bohême, parce que c'est une vieille tradition monarchique dans mon pays. Alors c'est le roi de Bohême, alors il part, et c'est très très facile de convaincre les gens qu'il faut se retirer, il faut pas être actif, il faut attendre 4 années, et à la fin de cette période électorale, il faut présenter le bilan. Alors il dit, donnez-nous, parce qu'il est le président d'honneur de son parti politique, aussi de l'ODS, donnez-nous les voix et laissez-nous gouverner. Et il ne faut pas se gérer dans les affaires publiques. Alors, c'est absurde. C'est le deuxième problème. C'est une position technocratique qui, de nos jours, est antidémocratique et qui est tout à fait inacceptable parce que la vie est différente et non pas celle à la Klaus.
Notre avenir vu par l'Union européenne, avoir ou ne pas avoir d'enfants aujourd'hui, migration, pluralité, intégration ou encore, quelle politique familiale et migratoire? Autant de questions discutées ce lundi lors d'une conférence trilatérale de démographie sur la natalité et les migrations internationales en Allemagne, en France et en République tchèque qui a eu lieu à Prague. L'un des points forts, la présentation par le commissaire européen Vladimir Špidla du livre vert de la Commission européenne qui se veut de donner des réponses aux importants changements démographiques survenus en Europe. Madame Chantal Blayot de l'Université Montesquieu de Bordeaux a bien voulu donner à Alena Gebertova plus de détails sur ces changements et sur les éventuelles spécificités de différents pays.
Je pense que ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est au contraire la simultanéité et la similitude qu'il y a eu des mouvements de variation de la fécondité en Europe, mais à des niveaux tout à fait différents. En Europe occidentale, par contre, quand il s'agit des pays anciennement communistes, ce qu'on a connu, nous, entre 1965 et 1975, ces pays l'ont connu juste au lendemain du changement de régime. Mais c'est la même chose, et c'est ce qu'il y a de plus frappant. Mais il y a des niveaux tout à fait différents, parce que la fécondité a suivi le même mouvement de baisse très forte, mais par des voies différentes. La nuptialité a baissé, mais plus ou moins, et à des périodes différentes. Dans les pays de l'Est, ça a baissé considérablement à partir de 90. Et ça a été partiellement compensé par des hausses de naissances hors mariage. Il y a des pays qui ont résisté à ces hausses, car leurs valeurs n'ont pas changé assez vite pour les accepter. Et donc, leur fécondité a varié et descendu encore plus.
La fécondité, d'une manière générale, est très basse. Faut-il sonner l'alarme ?
Je ne sais pas s'il faut sonner l'alarme. Ce que je pense qu'il faut éviter de dire, surtout, c'est que c'est de la faute des femmes et des individus. Si la fécondité est très faible, c'est que la société ne veut pas qu'elle soit forte. Dans aucune société, on a vu des individus pouvoir aller contre les objectifs d'une société. Or, moi, ce qui me frappe, j'ai fait beaucoup d'études, c'est que les femmes qui ont beaucoup d'enfants, elles sont montrées du doigt. On les considère pas. Ce qu'on doit faire, c'est croître économiquement, consommer. C'est incompatible avec une forte fécondité. Donc moi, si je sonne une alarme, c'est pour laisser un peu la liberté d'avoir plus d'enfants si on en veut, et que ceux qui n'en veulent pas beaucoup n'en aient pas, et au total, il y aura une bonne moyenne.
« Il en a fallu du temps, mais cette fois-ci, la parenthèse des années de plomb de la normalisation communiste de la vie sociale et culturelle tchèque après l'invasion des chars soviétiques en 1968 au cœur de l'Europe semble définitivement fermée, au moins vue de Paris. Une communication de Jiří Slavíček.
Oui, nous sommes du même monde, aussi bien hier qu'aujourd'hui, affirme par sa seule présence l'exposition des affiches du cinéma et du théâtre tchèque des années 60, inauguré avec bonne humeur mercredi soir par Antonín Lim, lui-même participant actif au foisonnement culturel de cette époque. Cette exposition, qui va durer à Paris jusqu'au 23 juin, complète harmonieusement la rétrospective parisienne des films tchèques de la même époque. Miloš Forman, Věra Chytilová, Bohumil Hrabal, Jan Němec, Jan Švankmajer et beaucoup d'autres sont à nouveau parmi nous. Et la nostalgie est fortement de la partie, comme disait le commissaire de l'exposition, le jeune Jean-Gaspard Pálení tchèque, en se référant à Josef Krautvor. À Prague, aujourd'hui, les vieux cinémas ferment leurs portes pour laisser place au multiplex. Les piles d'affiches se changent en histoire vers laquelle se tournent en admiration non seulement les anciens spectateurs nostalgiques, mais également les visiteurs contemporains des galeries et des musées. Fin de citation. Mais les affiches de Karel Vaca, Václav Zeman, Karel Machálek, Karel Tajsik et d'autres des films interdits à Prague après 68 et sortis en salle qu'après 1989 et leurs affiches exposées à Paris, ces jours-ci où on parle tant de l'Europe et de sa constitution, témoignent non seulement de la bêtise criminelle du régime qui les a interdits, mais surtout des mêmes racines européennes qui ne peuvent s'épanouir que dans la liberté. Certes, la situation a bien changé. La concurrence créative se cherche de nouveaux créneaux. Voici pour preuve bien parisienne. Du centre culturel tchèque Rue Bonaparte, il suffit de traverser la Seine. Sur l'autre rive, vous pouvez visiter dans la galerie du Pont Neuf une exposition critique conçue par Adam Vačkáš, consacrée aux nouveaux riches qui émergent en République tchèque. Je vous disais, les temps changent. De Paris pour Radio Prague, Jiří Slavíček.
Le festival de Cannes qui vient de se terminer a été suivi avec attention par les médias tchèques, tandis que la presse française se montre assez critique vis-à-vis du niveau artistique du festival. La presse tchèque, elle, trouve en général que les organisateurs de ce festival ont réussi à réunir une collection de bons films sans avoir déniché cependant une œuvre qui serait indiscutablement supérieure à toutes les autres. Quant aux tendances thématiques, on constate que ce sont les films sur la vie des artistes et le sort des migrants qui prédominent dans cette sélection. Évidemment, la presse évoque le film belge « L'enfant » des frères Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui a remporté la Palme d'Or, mais elle manifeste en général encore plus de sympathie pour le lauréat du Grand Prix, le film de Jim Jarmusch « Broken Flowers », et apprécie notamment l'humour et l'intelligence du réalisateur. À noter dans ce contexte que le sujet de l'œuvre couronnée « L'enfant » rappelle celui du film tchèque de Jan Hřebejk intitulé « Horem Padem » Open Down, considéré comme un des plus grands succès du cinéma tchèque de ces dernières années. De quoi raviver le ressentiment des cinéastes tchèques dont la production n'a pas été jugée digne d'être représentée au festival. Pour ne pas passer complètement inaperçu, les producteurs et les cinéastes tchèques se sont associés avec la Slovaquie et la Pologne et ont ouvert à Cannes un centre d'information sur leur production. La vedette de ce centre a été sans conteste le réalisateur tchèque Jiří Menzel, qui a présenté son projet d'adaptation du roman de Bohumil Hrabal, « Moi qui ai servi le roi d'Angleterre ». On n'a pas encore oublié que Jiří Menzel avait décroché un Oscar avec une adaptation d'un autre sujet hrabalien, « Les trains étroitement surveillés ». Et on espère maintenant que son nouveau projet pourrait permettre au cinéma tchèque dans le proche avenir de prendre cette forteresse inaccessible qu'est le Festival de Cannes et de percer dans la sélection officielle. Le tournage du film doit commencer à l'automne. En février dernier, Jiří Menzel a présenté son projet à la presse tout en soulignant son caractère tchèque.
Je crois que Hrabal est un grand humaniste et qu'il a le point de vue de regarder les gens comme les bêtes tête souriante, c'est tout. Ça doit être un film tchèque avec participation financière, mais je n'aime pas les grandes coproductions avec les vedettes, etc. Je n'aime pas les grands films. Je crois qu'il faut faire un film en tchèque avec les acteurs tchèques. À premier moment, il y a des rôles pour lesquels il faut utiliser les Allemands.
C'était Faits et événements, une émission d'actualité de Radio Prague qui vous a été présentée aujourd'hui par Václav Richter. Merci de l'avoir suivi.
Sport en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de notre magazine sportif aujourd'hui, le tirage au sort du tournoi de tennis de Roland-Garros et les fortunes diverses des joueurs et joueuses tchèques. La star du hockey sur glace, Jaromír Jágr, ne passera pas sur le billard, son petit doigt ne nécessitant pas finalement d'intervention chirurgicale. En foot, Milan Baroš devrait être, quant à lui, le premier joueur tchèque à jouer la finale de la Ligue des Champions, mercredi soir avec son club, le FC Liverpool. Et les Kenyans ont une nouvelle fois dominé le marathon international de Prague couru ce dimanche. Le French Open a déjà commencé et les joueurs et joueuses tchèques espèrent pouvoir briller sur la terre battue parisienne. La jeune Barbora Strýcová aura cependant fort à faire puisqu'elle affrontera au premier tour la finaliste de l'édition précédente, la Russe Elena Dementieva. Finaliste du tournoi d'Istanbul la semaine dernière, la première joueuse tchèque, Nicole Vajdišová, classée 35e mondiale, sera opposée à sa compatriote Lucie Šafářová, issue des qualifications. Dans le tableau masculin, Jiří Novák affrontera l'Allemand Björn Fao au premier tour. Il estime, vous l'entendrez, qu'il a plutôt eu de la chance au tirage au sort cette année. Je dois dire que le tirage au sort m'a été plutôt favorable. Le plus important, c'est de ne pas être tombé sur un spécialiste de la terre battue au premier tour. Mais tous les matchs seront difficiles, tous les adversaires seront difficiles à battre. Ce sera difficile, mais c'est vrai que le tirage au sort a été relativement clément avec moi. Jiří Novák était jusqu'à encore récemment le numéro 1 tchèque avant de se faire dépasser par Radek Štěpánek, auteur d'une brillante saison et classé aujourd'hui au 17e rang mondial. Štěpánek a battu lundi matin le Thaïlandais Paradorn Srirapan au premier tour en 4-7. Dans les tribunes, Radek Štěpánek a un supporter de choix en la personne de Jaromír Jágr, la star du hockey sur glace tchèque. Une star du hockey sur glace dont le petit doigt de la main gauche avait d'ailleurs fait la une de tous les quotidiens durant les derniers championnats du monde de hockey, un championnat que Jágr avait finalement pu disputer jusqu'au bout pour emmener son équipe à la victoire finale. Après divers examens et scanners, il semblerait certain aujourd'hui que l'auriculaire du joueur ne nécessite pas d'intervention chirurgicale. Autre bonne nouvelle pour la sélection nationale et pour les fans, les déclarations de Vladimir Rožička, qui a laissé entendre qu'il pourrait conduire l'équipe aux prochains Jeux Olympiques et Championnats du Monde. L'entraîneur de la sélection tchèque avait jusqu'à maintenant indiqué qu'il rendrait son tablier pour se consacrer à son club, le Slavia Prague. Milan Baroš espère devenir le premier joueur tchèque à disputer une finale de la prestigieuse Ligue des Champions. Son équipe, le FC Liverpool, affrontera en effet le Milan AC mercredi prochain à Istanbul. Ce match pourrait être le dernier de Milan Baroš au sein des Reds, où il n'aurait pas de très bon rapport avec le coach. Son compatriote et coéquipier Vladimír Šmicer est, lui, certain de quitter Liverpool à la fin de la saison. Šmicer, que l'on a annoncé de retour à Lens, vient par ailleurs, à 32 ans, d'être à nouveau sélectionné par l'entraîneur Karel Brückner pour les matchs de qualification de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 2006, au mois de juin, contre Andorre le 4 et contre la Macédoine le 7 juin. Le dauphin du Sparta Prague cette saison n'a pas encore été désigné, à deux journées de la fin du championnat de football de première division, la Gambrinus Liga. Cette deuxième place, qualificative pour la Ligue des Champions, est âprement disputée par le Slavia Prague, Teplice et Olomouc, qui se tiennent à 3 points. Le club de Liberec pourrait lui aussi prétendre à cette deuxième place s'il obtient l'annulation de la pénalité de 8 points infligée pour corruption par la Fédération Nationale de Football. Et on termine cette rubrique sportive avec le 11e marathon de Prague qui a une nouvelle fois été dominé par les coureurs kényans. Chez les hommes, c'est Stephen Matebo Cheptot qui s'est imposé en 2h10 minutes et 42 secondes devant deux de ses compatriotes. La première femme à avoir franchi la ligne d'arrivée vient également du Kenya. Saline Jebet Kosgei a parcouru les 42 km et quelques mètres en 2h28 minutes et 48 secondes. C'est la fin de cette rubrique sportive pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de votre attention. Dans un instant, la suite de notre programme.
Zahrajte mě nahoru ze Zluženici jednomu, zahrajte mě nahoru ze Zluženici jednomu. Má paninka šelma velká, já takový nebudu, má paninka šelma velká, já takový nebudu.
Un peu de musique quand même. Jarka Gisubelova.
Bienvenue à l'écoute. Comme vous pouvez vous en douter d'après ces premiers temps, cette édition du magazine musical appartient à la chanson populaire. Les quelques morceaux que je vous propose d'écouter documentent bien l'évolution des instruments typiques pour ce genre de musique. La plus répandue dans le passé tant en Bohême qu'en Moravie était la cornemuse. Aucune fête ne se passe d'elle, mariage, fête patronale et aussi les enterrements. Jouez-moi haut est le titre de la chanson de la région de Domažlice en Bohême occidentale, qui est le berceau de la cornemuse.
Muzikanti hrajte, nic se nestarite, až mi táta dá peníze, vy je dostanete, až mi táta dá peníze, vy je dostanete. Muzikanti hráli, nic se nestaráli. Muzikanti hráli, nic se nestaráli. Když mě táta dal peníze, oni je dostali. Když mě táta dal peníze, oni je dostali.
Il existe des documents prouvant que depuis déjà la fin du XVIe siècle, le cornemuseur s'unissait avec les joueurs de fifre et de tambour. Des instruments à cordes, dont notamment le violon, ne pénètrent en Bohême qu'à la moitié du XVIIe siècle, et depuis le début du XVIIIe, la clarinette apparaît dans la musique populaire. C'est à cette période également que les différences dans l'utilisation des instruments commencent à se manifester. Ainsi, en Bohême du Sud voit le jour la petite musique paysanne, composée des joueurs de cornemuse, de clarinette et de violon. D'autres instruments utilisés, la vielle, la harpe et la sitar, apparaissent notamment parmi les Allemands de Bohême. Écoutons une chanson des environs de Plzeň qui s'appelle « Je leur dis toujours ».
Že zanechám toho milování, že z toho nic nepochází, jenom pomlouvání. Kdybych se s Mařenkou zastavil, slovíčko nebo dvě promluvil, tu hned lidi nadělají, že tam za ní chodím. Chodí jinej, chodí tam kamarád. Já nechodím, chodí jinej, chodí tam kamarád. Kdyby jsme tam oba chodili.
À Moravie, la cornemuse joua un rôle important jusqu'aux années 60 du 19e siècle. Après les formations des dits ménétriers envahissent la région et la cornemuse cède entièrement la place au violon accompagné de la clarinette et de la contrebasse. Or, c'est le cymbalum qui est l'instrument le plus typique de la musique populaire morave. Répandu depuis déjà le 18e siècle, il gagne en popularité pour ses qualités dynamiques et l'étendue des tons. La chanson d'Uherské Hradiště en Moravie du Sud, intitulée « Coupe, coupe, coupe » en est une preuve. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600.